Saison 3. L'hiver. Chapitre 30. Poussière d'étoiles. Jacques avança en titubant vers la piscine. La bouteille de vodka pesait une tonne au bout de son bras, et pourtant elle était presque vide. « Pas grave, Dim lui en apporterait une nouvelle, sa jumelle, dès qu'il en aurait tété la dernière goutte au goulot. La réserve de la cave du palace était inépuisable, et même s'il parvenait un jour à tout boire, il resterait les caves de 10 autres palaces parisiens à vider. » Il avança encore, avec précaution, sur les pavés mouillés. Il avait essayé, les premières heures après le départ de ses invités, de ne toucher à aucune bouteille. Mais le silence était trop fort, sans les conversations d'Alix et de Zizo, sans la guitare de Mano, sans les impertinences de Sabi. C'était comme si un nouveau nuage était passé et avait emporté à nouveau tous ses proches, tous ceux qui méritaient qu'il fasse l'effort de se lever, de prendre une douche, de ne pas être ivre-mort dès 8 heures du matin, de... Merde ! Perdu dans ses pensées, Jacques dérapa sur le sol humide. Il rétablit in extremis son équilibre, mais dut lâcher la bouteille qui explosa à ses pieds. « Crombleu ! » ordonna-t-il immédiatement. « Nettoie-moi tout ça !» Aucune réponse, aucun bruit. D'ordinaire, son souffre-douleur accourait dès qu'il le sifflait. Jacques avança prudemment parmi les débris de verre, mais ne put éviter de marcher sur les tessons. Une fleur de sang rouge poussa entre ses orteils, se fanant immédiatement dans l'eau chlorée et s'échappant en un effrayant ruisseau rose entre les pavés.
« Crombleu ! »
cria-t-il encore.
« Qu'est-ce que tu peux bien foutre, bon Dieu ?»
Chacun de ses pas laissait une marque écarlate de simples égratignures qui le piquaient à peine. « Crombleu ?» Jacques venait d'apercevoir le préma géant et lui tournait le dos, assis dans le vestiaire, occupé à fouiller dans son sac de cuir, si concentré qu'il ne l'avait pas entendu. Jacques continua de progresser, en silence cette fois, et ne se manifesta que lorsqu'il fut à 1 mètre du préma.
« Qu'est-ce que tu caches là-dedans ? »
« Rien !»
Trop tard, Jacques lui avait déjà arraché le sac des mains. Il savait que Crobleu ne chercherait pas à le récupérer ni ne se permettrait le moindre geste de désobéissance. Jacques fouilla dans la bourse de cuir et en sortit quelques poignées de lune. Rien de bien original, même s'il s'étonnait que son souffre-douleur puisse en posséder autant. À qui avait-il bien pu les voler? Ses doigts continuèrent de fouiner et se refermèrent sur une feuille de papier. Il la sortit, l'observa et éclata de rire. Il découvrait un dessin, un portrait de Crobleu, mais en plus beau. Sur le croquis, les cicatrices de son visage avaient disparu. Son nez possédait une forme normale, son sourire ne ressemblait pas à une atroce grimace, même ses dents étaient limées.
« C'est toi ça ?»
Jacques n'arrivait pas à retrouver son sérieux. Depuis combien de temps n'avait-il pas ri autant ? Le géant tatoué le regardait, sans laisser paraître le moindre sentiment.
« Tu veux passer le concours de Mister Préma, c'est ça ? Mon pauvre vieux, moi qui croyais que la chirurgie esthétique avait disparu avec l'ancien monde. » Je t'assure, tu m'es bien plus utile avec tes dents bleues et ta tête de monstre. J'ai besoin d'un garde du corps qui fait peur.
Il roula négligemment la feuille en boule et la jeta par terre. Le visage de papier froissé s'imbiba immédiatement de sang rose, comme quand Crobleu égorgeait un chat à pleines dents.
Allez, beau gosse, nettoie-moi ça. Et appelle Dim pour qu'il m'apporte une autre bouteille pleine.
Jacques, en retournant vers la piscine, prit soin cette fois d'éviter les tessons. Il atteignit le rebord sans encombre et laissa tomber son peignoir à ses pieds. Il adorait cet instant juste avant de plonger. Se laisser couler sous l'eau était la seule sensation qui, désormais, le reliait au monde d'avant, qui le rapprochait de cette impression de défier la pesanteur. Ce besoin de légèreté ne l'avait jamais quitté depuis qu'il avait été consacré astronaute de l'année. C'était si loin maintenant. Il plongea, un geste maîtrisé, élégant. Même avec 3 grammes d'alcool dans le sang, il aurait été capable d'effectuer ce mouvement à la perfection. Il se laissa couler. Aussitôt, il oublia tout, l'alcool qui le rongeait, ces abrutis de Préma, ces sept idiots de privilégiés qui l'empêchaient de respirer, ce monstre de Crobleu qui les regardait comme des moutons à dévorer, le silence, le nuage, la solitude absolue du temps d'après, la douleur insupportable du temps d'avant, Julie, Hugo, Manon, tous ces visages disparus en quelques jours. Un souffle avait suffi pour tous les condamner. Jacques nageait toujours, rasant le fond de la piscine comme il aimait, telle une créature aquatique légendaire, une sirène ou une chimère. Le fond de la mer pouvait être aussi attirant et sombre que le fond de l'univers. Il aurait voulu ne jamais remonter à la surface, ou comme ces dessins de monstres noyés dans la piscine, exploser en des milliers de mosaïques. Il remontait pourtant, chaque fois. Il y tenait, bizarrement, à cette vie. Peut-être à cause des ados, Alix, Zizo, Sabi. Peut-être parviendrait-il, après tout, à construire ce monde nouveau, plus beau. Peut-être pourrait-il y prendre sa part, lui aussi. Il savait que les primats lui obéiraient, verte croix ou pas. Il restait leur papa. C'était l'une des seules certitudes greffées dans leur cerveau servile. Il nagea vers la surface, mu par une force soudaine, nourri d'une nouvelle énergie. Ses mains accrochèrent le rebord. Il ne s'inquiéta pas quand il vit l'ombre le dominer. Il avait l'habitude que Vendredi, ou Dim, ou Sam, ou même Crobleu, l'attendent au bord de l'eau en lui tendant un verre, une serviette, un peignoir. D'ailleurs, c'était ce que l'ombre faisait. Elle lui tendait. Il aperçut trop tard le regard dément de Crobleu, ce regard de chien fou qui avait rompu sa chaîne, cette lueur de cruauté envers son maître qu'il n'avait jamais vu dans ses yeux. Il reconnut trop tard l'objet qu'il tenait dans la main, son trophée, sa pierre de soleil. Il n'eut pas le temps de plonger cette fois. La pierre lui explosa le crâne avant même qu'il esquisse un geste pour se défendre. Il vit seulement la météorite s'effriter, la gangue de roches dorées se fissurer et libérer des particules jaunes vifs. Il sentit seulement des centaines de paillettes dorées danser devant ses yeux, tomber sur lui en poussière d'étoiles, son sang couler, ses pensées, petit à petit, s'apaiser, se diluer dans l'eau chlorée. Alors, pour la dernière fois, il se laissa couler. Le cordon le reliant à la terre des hommes avait définitivement cédé. Il pouvait enfin s'en aller, libre, explorer les confins de l'univers interdit aux êtres de chair. Là où l'attendaient Julie, Hugo, Manon et le reste de l'humanité. Tous ceux qui avaient définitivement cessé de respirer.